Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 10 janvier 1940, l'incident de Mechelen. Nous sommes durant la drôle de guerre. Le 10 janvier 1940, l'avion de deux officiers supérieurs de la Luftwaffe atterrit par erreur en Belgique. Les deux gradés portent sur eux le plan d'offensive à travers la Belgique. Ils ne peuvent le détruire complètement et l'état-major allié en prend connaissance. Cet incident entraîne le renforcement des positions alliées dans le nord de la France, invitant Adolf Hitler à tenter un coup de faux, celui des Ardennes. Sur le front occidental, le dispositif allemand comporte trois groupes d'armées. Le groupe von Lieb, à gauche, sur la ligne Siegfried, face à la ligne Maginot, a un rôle défensif. Les groupes von Back, à l'aile septentrionale, et von Rundstedt, à l'aile méridionale, sont chargés de la mission offensive. Préparant l'invasion de la Belgique, Hitler envisage l'éventualité d'un échec du groupe d'armée nord confronté à d'importants obstacles naturels et à la masse de manœuvres alliées. Il pense donc se ménager des possibilités à l'aile sud en faisant un effort secondaire sur Sedan avec deux divisions blindées sur les neuf disponibles et en prévoyant que le centre de gravité puisse être transféré au sud durant l'opération militaire. Les Français ne conçoivent que la réédition de la première phase du plan Schlieffen de 1914, à savoir l'invasion de la Belgique. Il prévoit l'envoi dans la plaine belge au nord de la Sambre dès le déclenchement de l'attaque allemande de la grande majorité de leurs unités blindées et de l'excellente armée britannique. Les indications météorologiques incitent Hitler à fixer le jour J au 17 janvier, heure H déterminée 15 minutes avant le lever du soleil à Aix-la-Chapelle, donc à 8h16. Dans la soirée du 9 janvier, à Münster, en Westphalie, au siège de l'état-major de la 2e flotte aérienne, le major Rheinberger est avisé de se tenir prêt à partir le lendemain matin pour Cologne, en vue de régler avec l'état-major du 1er corps aérien certaines opérations communes. Il reçoit tous les ordres généraux et les documents de base nécessaires. Il doit voyager en train, car le transport de pièces secrètes par air est strictement interdit. Au casino de la base aérienne, il rencontre le major de réserve Heinzmanns, qui lui propose de le conduire à Cologne dans son avion personnel. Le 10 janvier à 11h, les deux officiers supérieurs s'envolent à bord d'un Messerschmitt 108. En cours de vol, le ciel se couvre et la visibilité devient mauvaise. Le moteur s'arrête, un atterrissage forcé est indispensable. Un brave paysan qui travaille dans son champ annonce aux deux aviateurs qu'ils sont en Belgique, près de Mechelen-sur-Meuse, dans le Limbourg. Rheinberger révèle alors à son compagnon que sa serviette est pleine d'ordres ultra secrets qui ne doivent en aucun cas tomber aux mains des Belges. Il se précipite derrière une haie pour brûler ses papiers. Pendant ce temps, One Mans amuse les gardes frontières belges qui accourent. Ils aperçoivent une fumée suspecte qui monte de la haie voisine. Ils se précipitent, éteignent le feu à coups de bottes et ramassent les papiers non encore consumés. Peu après survient un officier belge, le capitaine Rodrigue, commandant un escadron cycliste qui fait les premières constatations. Il conduit les officiers allemands à Mechelen et téléphone à Bruxelles. Il lui est recommandé de traiter avec courtoisie ses hôtes de passage. Vers 18h arrive le major Verhagen de l'état-major général belge. Il examine les papiers récupérés et certifie leur authenticité. Par téléphone, il communique les premiers résultats de son enquête au chef du contre-espionnage qui avise à son tour à 21h le général von Overstraten, conseiller militaire du roi Léopold III. Dans la nuit, les papiers sont détruits. Le témoignage du général von Overstraten est explicite. Le premier document est d'ordre général d'opération de la 2e flotte aérienne. Le voile est déchiré, l'action vise à la destruction de l'armée belge, de l'armée anglaise et d'une partie aussi importante que possible de l'armée française. Certes, la date de l'offensive n'est pas précisée, mais les documents indiquent qu'un temps sec et froid, comme le temps actuel, favorisera l'opération. D'autre part, des renseignements annoncent des mouvements allemands à notre frontière. L'offensive pourrait commencer dans 2 ou 3 jours. Le général avise le colonel français Hautecoeur, officier de liaison, à qui il remet un relevé, écrit de sa main, des principaux ordres allemands apportés de la part du roi au général Gamelin à Vincennes. Le 13 janvier à 20h, Bruxelles réceptionne un message du colonel Goethals, attaché militaire belge à Berlin. Il annonce que l'attaque allemande est avancée au lendemain. Des dispositions de mobilisation et d'alerte sont prises. Les conditions météorologiques évoluent. Un vent chaud souffle, il dégèle et il pleut. L'invasion de la Belgique est ajournée. Le terrain fongeux et la mauvaise visibilité se prêtent mal à l'action conjuguée des chars et de l'aviation. Hitler est pris d'une rage folle. Il limoge le général Felmy, commandant de la 2e flotte aérienne, qui est remplacé par le maréchal Kesselring. Les gouvernements français et britanniques sont maintenant partisans d'une entrée préventive sur le territoire belge. Le 15 janvier à 9h30, au château de Laeken, le roi des Belges reçoit l'amiral Keyes, qui lui remet un message affirmant que le gouvernement de Sa Majesté est prêt à accepter l'invitation du gouvernement belge aux forces britanniques d'entrer en territoire belge. Il donne également certaines assurances relatives à l'intégrité future de la Belgique et une assistance financière. Cependant, Léopold III et son conseiller militaire s'opposent à la pénétration des troupes alliées avant toute invasion allemande. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama. Ce sera ensuite la chronique littéraire « Un jour, 3 livres » présentée par Emmanuel qui est à mes côtés en studio. Nous écoutons Jean Ferrat, « Nuit et brouillard » de l'album éponyme, titre de 1963.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, aujourd'hui deux livres exceptionnellement. Cette chronique a été préparée et elle est présentée par Emmanuel. Nous commençons par Julie, matricule 247, le destin d'une bagnarde.
Inspiré d'une histoire vraie, celle de Julie Binet, ce roman intégrant fiction, faits historiques et iconographie, nous plonge dans l'horreur du bagne de Saint-Laurent du Maroni en Guyane. Julie, une vraie personne, hein, naît en 1864 dans une famille ouvrière normande. Pour son plus grand malheur, elle rencontre son futur époux et tous deux montent à Paris. Là, loin d'être l'opulence, elle est obligée de vivre de menus larcins et de prostitution. Cette descente aux enfers la conduira en prison, puis à la relégation au bagne. La société bourgeoise de l'époque souhaitant se débarrasser de ce type de personnes après leur temps de prison. C'est ça la relégation. La voilà en 1895, exilée, internée et transformée en esclave au profit de la République pour un salaire de misère sous l'autoritarisme arbitraire de religieuses. Elle n'en sortira qu'en 1914, mais y contractera en plus une maladie qui la tuera quelques petites années après son retour en métropole. Le destin brisé d'une femme courageuse, c'est écrit par Muriel Meunier aux éditions Favre dans la collection Romans historiques.
Et le titre, Julie, matricule 247, le destin d'une bagnarde. Catherine de Yves Bigot, c'est aux éditions Encre de nuit.
Voici un roman féministe, écrit par un homme. Le roman, d'ailleurs, du début des années 70. Une jeune Hollandaise de bonne famille, Catherine, en raison d'un scandale éclaboussant son père, est condamnée à l'exil. La voici lancée sur les routes, entre les provôts d'Amsterdam, les vélos en libre-service, le Swinging London, donc la vitalité londonienne pop, et les hippies de San Francisco. Le tout dans le monde de la pop, la mode pop, les groupes de rock, le sexe, la drogue et, pour son malheur, les Hells Angels.
Vous pourriez peut-être un peu préciser, Emmanuel, ce que sont les Hells Angels?
Alors, c'est à l'origine un club de moto appelé les Anges de l'Enfer, hein, c'est des bikers, fréquemment criminalisés, actifs dans le monde entier, actifs bien sûr dans le domaine de la drogue, et elle va se retrouver recherchée par eux, et il va falloir qu'elle se défende à tout prix.
Quant aux provôts d'Amsterdam, nous sommes avec eux à l'origine de tous les mouvements alternatifs qui ont marqué en Europe les années 1970.
Alors, les provôts d'Amsterdam, ça n'a pas été une grande réussite. Hein, parce qu'effectivement, ils mettaient en libre service des vélos.
Oui, ils ne faisaient pas que ça. Hein, il y avait tout un projet d'une société fondée sur
le bien commun, en fait, en quelque sorte.
Oui, une conception assez anarchique.
Et malheureusement, chaque fois qu'ils faisaient ce genre de choses, ça finissait assez mal, dans la mesure où, par exemple, les vélos étaient récupérés par les gens qui ne les remettaient jamais en place.
Voilà donc Catherine de Yves Bigot, c'est aux éditions Encre de Nuit. Merci Emmanuel pour cette chronique littéraire. Nous allons nous séparer en chanson avec Jean Ferrat. Nous écoutons « C'est beau la vie », un titre de 1963. Et je remercie Lucas qui a réalisé cette émission. Thank you.